Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Merci Agnès et rendez-vous demain.
C'est Christophe Paco qui prendra ma place.
Christophe Paco à l'heure du déjeuner. Y a-t-il encore des gens qui portent le prénom Pierre dans les quartiers? Y a-t-il encore de la mixité sociale? Est-ce qu'on a abandonné le quartier depuis des années? Charles est avec nous. Qu'en pensez-vous?
Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'il y a, évidemment, je pense qu'il y a un souci de mixité. Après, j'aimerais quand même apporter un petit bémol par rapport à cette histoire qui peut être évidemment révélatrice d'une rupture culturelle, mais il me semble qu'il suffit de passer, par exemple, un mois dans un pays pour cerner assez rapidement les prénoms traditionnels de ces pays. Si vous allez en Espagne, vous allez vite vous apercevoir que des prénoms comme Juan ou Carlos sont des prénoms traditionnels, en très peu de temps. En Italie, ça sera Paolo, Giuseppe, et ainsi de suite. Donc je trouve ça assez choquant, parce que ça voudrait dire alors que certaines personnes sont vraiment dans une bulle identitaire, une bulle en fait culturelle qui est complètement imperméable au reste.
Bon, c'est-à-dire, quand même... c'est-à-dire, je comprends pas ce que vous voulez dire. Bah, qu'est-ce qui est choquant?
Ce qui est choquant, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont pas en contact avec le reste de la société. C'est quand même curieux.
C'est-à-dire que la dame qui a adressée au président de la République, vous trouvez qu'elle n'est pas en contact avec la réalité?
Disons que c'est quand même curieux de vivre dans un pays et de pas connaître les prénoms traditionnels de ce pays.
Non, mais ce qu'elle dit, c'est son fils qui a 8 ans, son fils, demandé si le prénom Pierre existait que dans les livres, parce que son fils sans doute ne croise pas de garçon qui s'appelle Pierre dans sa vie de tous les jours.
C'est bien ce que je vous dis, c'est quand même assez curieux qu'il y ait cette forme d'isolement, on va dire culturel ou de rupture culturelle avec le pays dans lequel on vit. C'est quand même curieux.
C'est-à-dire que ça voudrait dire que dans ta classe, vous avez raison. C'est vrai, vous avez raison.
C'est ça que je voulais dire.
Ça montre effectivement que c'est une phrase qui n'aurait pas pu être dite il y a 30 ou 40 ans.
Absolument. Et moi, je pense que par rapport à ce quartier-là où était en visite, parce que on connaît ce quartier. Je pense que.
Parce que vous êtes de Montpellier.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et donc le quartier, c'est un quartier. Est-ce que tout le monde ne connaît pas ce quartier?
Ah, c'est un quartier, comme
c'est la Payade.
Comme les cités, absolument. Donc c'est un quartier, où je pense que certaines personnes ne veulent plus vivre selon les mœurs qui ne sont pas les leurs. C'est-à-dire qu'il y a une forte concentration de population maghrébine. Je pense aussi qu'il y a des nuisances sonores, des détériorations dans les parties communes, le trafic de stupéfiants, de la délinquance, de l'intimidation. Et je pense que il y a un exode, en fait. C'est ce que disait votre sociologue tout à l'heure à l'antenne. Je pense qu'il y a un exode en fait de certaines personnes qui ne veulent pas vivre selon ces coutumes-là.
C'est une mixité sociale qui n'existe plus ou c'est une mixité culturelle? Parce que c'est pas tout à fait la même chose.
Moi, je pense que c'est. Moi, je pense que c'est culturel. C'est plus grave. C'est plus profond. Parce qu'en fait, l'économie, c'est bien sûr que ça délimite des choses, mais je pense que c'est plus structurel. Moi, je pense que c'est vraiment culturel l'histoire. Voilà. Et ce qui se passe dans ce quartier, ça se passe aussi à échelle de la ville. Vous savez, les Montpelliérains sont confrontés à des incivilités, des agressions quotidiennes. Et je pense que ceux qui peuvent se le permettre économiquement quittent Montpellier, le centre, pour aller s'installer en première ou seconde couronne. Et les autres, malheureusement, ceux qui n'ont pas les moyens, continuent de serrer les dents et sont confrontés, en fait, à des incivilités quasiment quotidiennes. Il y a un journal qui est le Midi Libre à Montpellier qui relate, en fait, quasi quotidiennement des agressions, des incivilités, etc. Hier, pendant la visite de notre président, il y a eu quelqu'un qui s'est fait tirer dessus en pleine journée. Dans un quartier de Montpellier, qui n'est pas, a priori, un quartier qui a l'air mal famé, mais je pense qu'il y a une rupture culturelle et deux cultures qui, a priori, il y a un phénomène de rejet. Il y a un phénomène de rejet parce que je pense que certaines personnes ont peut-être un sentiment de toute puissance, veulent absolument affirmer leur culture, et ça se fait pas, ça se fait dans un esprit d'opposition. C'est pas un esprit bienveillant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce comme ça de concurrence culturelle qui, à mon avis, est très malsaine. Voilà. Et à partir du moment où on va imposer quelque chose aux autres, c'est là où la mixité culturelle, en fait, n'a plus lieu. Et donc, ça alimente des phénomènes de rejet. Parce que ben, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, à partir du moment où état d'esprit, c'est compliqué pour d'accepter tout ça.
Mais Charles, moi j'entends ce que vous dites. Mais au fond, quelle est la différence entre la mixité sociale en 2021 et par exemple en 1920 ou à la fin du 19e siècle? Prenons Paris, le 16e arrondissement est l'archétype de l'arrondissement bourgeois. C'est devenu quasiment une caricature. Quand on dit il est du 16e arrondissement, on le dit depuis des années. Bon. Mm-hmm. Ça voulait dire quoi? Qu'il n'y avait pas de mixité sociale au début du XXe siècle, dans ces grands immeubles haussmanniens du 16e arrondissement que les Parisiens connaissent, mais peut-être que ceux qui nous écoutent connaissent aussi, avec des lycées prestigieux comme Jean-Son de Sailly, et puis comme Henri IV dans le 6e arrondissement ou dans le 5e arrondissement. Cette mixité sociale, elle n'existait pas non plus. Dans le 16e, en 1920, vous ne trouviez que des bourgeois, que des gens qui avaient les moyens. Donc moi, je m'interroge, c'est est-ce que c'est nouveau, cette absence de mixité sociale, ou est-ce que ça a toujours existé? Et au fond, je n'ai pas vraiment la réponse, pour tout vous dire.
Mais là, vous avez glissé sur le social, alors que moi, je suis sur le culturel.
Je suis un peu d'accord avec vous. C'est peut-être effectivement... je suis d'accord avec vous. J'entends ce que vous dites, mais... j'entends ce que vous dites. J'entends, quand je disais tout à l'heure que les Juifs français ne veulent plus vivre dans des endroits où ils sont avec des musulmans français, on est sur la culture, bien évidemment.
Mais
c'est-à-dire qu'ils ont quitté des endroits, notamment Sarcelles, ces célèbres... ils ont quitté ces endroits-là. Donc les gens ne veulent plus vivre ensemble.
Non,
ou ne peuvent plus vivre ensemble.
Voilà, parce que je pense qu'il y a une façon d'affirmer sa culture. Et quand on affirme sa culture de façon provocatrice, ou dès que l'on impose des choses aux gens, dès que l'on le fait dans un état d'esprit qui n'est pas bon, qui n'est pas constructif et qui n'est pas bienveillant, on suscite le rejet.
Ben oui, mais la généralisation est difficile, parce que vous ne pouvez pas dire que toute une communauté veut afficher sa culture de manière agressive. On va marquer une pause, si vous voulez bien, Charles, de toute façon. Et on va saluer l'ami Caranoni, qui est là. Pierre, ça serait pas mal de faire une petite... de rendre hommage aux pierres.
Une playlist avec des pierres.
Écoute, Pierre, alors moi, Pierre Curie, Pierre Desproges, Pierre Mauroy, Pierre Bérégovoy, Pierre Delanoë. Pierre Delanoë qui a écrit des chansons. Pierre Doris, Pierre Drieux-La Rochelle, Pierre Dux, Pierre Freinet, Pierre Ménès, Pierre Etex, Pierre Granier de Fer, Pierre Lescure, Pierre Hermé, Pierre Loti, Pierre Ninet, Pierre Vanneck, Pierre Legrand, Pierre Perret, Pierre Soulages, Pierre Corneille, Pierre Richard, Pierre de Ronsard, Pierre Bachelet, Pierre Cardin, Pierre Péchin, Pierre Bellemare, Pierre Bénichou, Pierre Tchernia, Pierre Balmain, Pierre Berger, Pierre Bonte, Pierre Sabague, Pierre Vernier, Pierre Brasseur, Pierre Boulez, Pierre Dac, Pierre de Coubertin. Saint-Pierre, priez pour nous, Pierrot le Fou. A tout de suite.
Pierre-Louis Mauger.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Pierre qui roule.
Oh, très bon. C'est le sujet qui vous interpelle au 3210. Y a-t-il encore des gens qui portent le prénom Pierre dans les quartiers? Y a-t-il encore la mixité sociale? Pas forcément pour Charles, premier à intervenir dans l'émission. Lors de son déplacement hier à Montpellier, Emmanuel Macron a été interpellé par une habitante du quartier de la Mosson.
Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a manque de mixité dans le quartier. Je lui ai dit non, mon fils Pierre existe vraiment, il y a des gens qui s'appellent Pierre.
Et pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, invité de RTL ce matin, la mixité sociale dans les quartiers ne se fait pas du jour au lendemain.
Vous ne refaites pas le quartier de la Paillade à Montpellier ou le quartier de la Bourgogne à Tourcoing en 3 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans le quartier de la Paillade, le maire de Montpellier vous dirait que, indépendamment de lutter contre les trafics de stupéfiants, nous refaisons tout dans ce quartier. Et notamment, on évite de faire 90% de logements sociaux dans un immeuble. Et puis, deuxièmement, moi je constate que cela fait 30 ou 40 ans que cela existe.
Alors a-t-on abandonné nos quartiers depuis des années? Réaction d'Éric sur la page Facebook de l'émission. J'aurais tant aimé rester dans mon quartier. À Saint-Denis, mais on m'a bien fait comprendre que je n'avais plus ma place avec ma famille. Je suis parti dans une autre région où je n'ai plus à baisser la tête, où je peux voir mes enfants grandir sans avoir peur. Et ne rêvez pas, rajoute Yves, la mixité sociale n'est qu'un concept fumeux. Les habitants sont toujours regroupés par affinité religieuse, culturelle. J'ai vécu 26 ans en HLM, à Sévran, en Seine-Saint-Denis. Pour Véronique, si cette maman souhaite voir le prénom Pierre dans son quartier, elle n'avait qu'à appeler son fils comme cela, tout simplement.
Pierre.
Oui.
Pierre Greg. Ah oui, Pierre Bachelet. On va faire une spéciale Pierre. Donc que tous les auditeurs qui s'appellent Pierre nous appellent parce qu'ils auront un cadeau.
Ah bon, lequel?
Je sais pas.
Une pierre?
Non. On va lancer. C'est le jour des pierres quand même. C'est d'abord, c'est un superbe prénom. C'est un des rares prénoms qui passe toutes les générations. Comme François, c'est assez rare, hein, des prénoms qu'on retrouve à toutes les générations. Nous sommes avec Abdelatif. Bonjour Abdelatif, vous êtes commerçant. Donc cette question de la mixité sociale, si tant est qu'elle n'existe plus, est-ce qu'elle a déjà existé en France ? Bonjour Abdelatif.
Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si elle a existé en France, mais en tout cas, moi, quand je suis venu en France il y a quelques années, des pierres, j'en ai connu, j'en connais encore, personnellement. Je les fréquentais, des pierres, des Bruno et de tout. Maintenant, il y a un problème. Je crois que la question de cet enfant de 8 ans, ce n'est pas une question anodine. Ce n'est pas juste le prénom Pierre, c'est quelque part. C'est que cet enfant peut-être a envie de vivre avec des pierres, avec d'autres gens qui ont des prénoms, qui ne sont pas forcément ceux du quartier. Mais en réalité, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas la volonté des populations des quartiers, contrairement à ce que j'ai entendu lors d'autres interventions où les gens ils veulent protéger leur culture. Je ne crois pas. Cette maman d'hier, certainement quand elle a parlé à M. le Président de la République, qui n'est pour rien dans cette affaire, puisque c'est la conséquence d'une politique de logement d'il y a 30 ans, 40 ans. Où il y a quelques années déjà, on commençait à refaire les façades des quartiers, mais sans réformer, sans poser la question à ce qu'on mette un pourcentage de logements non sociaux, de manière à ce que des gens d'un autre horizon, d'une autre catégorie socio-professionnelle puissent venir y vivre. Mais quand on met des HLM à n'en pas finir avec des loyers très modérés, accessible à une catégorie de personnes,
mais il aurait fallu quoi, par exemple? Il aurait fallu qu'il y ait des logements qui ne soient pas que sociaux, c'est-à-dire qu'ils soient accessibles à des propriétaires, c'est ça que vous voulez dire?
Bien sûr. Il aurait fallu. Moi, j'habite dans une région où il y a eu beaucoup de millions d'euros qui ont été investis dans un quartier que je ne vais pas nommer. Mmh. C'est pas grave, c'est où je déboise, allez. Mais le problème, c'est que. Il y a eu juste la réflexion du quartier, mais au niveau de la profondeur, au niveau de la mixité, au niveau de la population, rien n'a été fait. Et ça veut dire que l'argent ne fait pas tout. Il faut une volonté de chacun. Vous savez, moi, ce que j'aurais aimé faire, c'est qu'on puisse ouvrir des quartiers chic à des gens peu fortunés, en les aidant à y être, ou plutôt que l'inverse, plutôt que mettre tous ceux qui sont infortunés ensemble. Non. On va dans des quartiers de luxe, on va dire, celui-là, on va lui donner un maximum d'APL pour qu'il puisse vivre avec des gens et qu'il va rencontrer des pierres, des margarettes et d'autres.
Margaret, c'est un peu plus anglais peut-être, mais ce qui m'intéresse dans ce qu'a dit cette femme au président de la République, c'est que c'est pas une mixité sociale, c'est une mixité culturelle dont elle parle. Et le paradoxe, c'est qu'elle réclame donc qu'il y ait des pierres, donc des gens qui portent un prénom entre guillemets de français, je sais pas si on doit dire de souche traditionnelle. Les deux expressions ne sont pas belles. Mais c'est cette affaire de prénom qui revient régulièrement. Est-ce que, selon vous, le prénom est important pour mieux s'assimiler ou mieux s'intégrer, ou est-ce qu'au contraire, selon vous, il est bon que chacun puisse garder, pourquoi pas, des prénoms qui marquent son origine, son passé, etc. Bon, ce qui est votre cas, puisque vous appelez par exemple Abdelatif.
Moi, je m'appelle Abdelatif, j'ai un certain âge, donc je ne l'ai pas choisi, c'est mes parents qui m'ont appelé.
C'est rare, les enfants qui choisissent leur prénom, ou alors ils sont très en avance. Hein, bon.
Si vous voulez, le problème, vous me parlez d'un problème culturel, mais je pense que c'est d'abord un problème social avant qu'il soit culturel. Mettez des gens qui viennent des mêmes régions, des mêmes pays ensemble dans un quartier, vous en créez un quartier qui n'appartient qu'à eux, et que finalement... il devient inaccessible pour les autres culturellement. Pourquoi ? Parce qu'on y crée le coiffeur marocain, on y crée la boutique de ceci, et à un moment donné, ça devient tellement exotique qu'on se demande si on est en France ou on est ailleurs. Mais c'est pas la faute de ces habitants-là. Au début, c'est certainement social, et ça devient culturel par la force des choses.
Merci Abdelatif. Merci. On va poursuivre évidemment ce débat. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Il n'y a pas que celle-là. Bien sûr, il y a les syndicats de policiers qui ont appelé les fonctionnaires à se rassembler à l'heure du déjeuner devant les tribunaux judiciaires partout en France. Et puis, il y a le foot. Si vous voulez parler de la Ligue des Champions, pourquoi pas, ou de la Super League, on en a un peu parlé hier. Vous pourrez nous en reparler aujourd'hui. Faut-il alléger les restrictions également sanitaires à la mi-mai, en espérant évidemment que tout rouvre? À tout de suite. Je ne te lance pas la pierre, Pierre.
Pierre ? Mais faire des cheveux, vous savez, on a craint le pire.
Excusez-moi, madame, monsieur, je suis affreusement en retard, mais les enfants m'ont retenu et j'ai été obligé de porter un collier à un couple de vieux.
Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer. Je filme. Bonsoir. Joyeux Noël, quand même.
Et bon réveillon.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Nous n'avons pas encore eu un auditeur qui s'appelle Pierre au téléphone, ça ne saurait tarder, mais nous faisons une petite playlist des Pierres. On a eu Pierre Blachelet, Pierre Perret, bien sûr, que vous avez reconnu.
Et le Père Noël est une ordure, je ne vous jette pas la pierre, Pierre.
Bien évidemment, et Mohamed est avec nous. Mohamed qui habite Nantes et qui veut intervenir sur ce thème de la mixité sociale. Bonjour, mais je le répète, j'ai l'impression quand même que c'est pas nouveau que les riches habitent avec les riches et que les moins riches habitent avec les moins riches et que les pauvres habitent avec les pauvres. Je vous assure, j'ai pas le sentiment que tout ça est très nouveau. Les HLM notamment, ça a 60 ans, 70 ans, et avant c'était ce qu'on appelait parfois les bidonvilles dans les quartiers difficiles de la capitale. Il suffit de se plonger dans les archives. Mohamed, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, merci de me prendre. Oui, c'est pas un problème nouveau, effectivement, mais sauf que c'est le problème essentiel aujourd'hui qui est à l'origine de tous les maux de la société française, notamment sur tous les sujets médiatiques qui concernent les problèmes d'intégration ou d'insécurité. En fait, ce problème-là, il existe, mais les politiques et même les collectivités locales, moi je suis dans une ville de Nantes, ne se posent pas vraiment la question de la mixité sociale dans les quartiers. En fait, parce qu'on préfère laisser les problèmes concentrés dans ces territoires, faire en sorte qu'ils ne sortent pas. Tout le monde sait où sont les dealers, tout le monde sait où se positionnent les vendeurs de drogue, tout le monde
mais
sait
ça, c'est autre
les
chose.
Adresses exactes. C'est super.
Vous êtes où à Nantes, par exemple? Dans quel coin vous êtes?
Je connais par exemple le quartier Bellevue à Nantes, je connais le quartier des Dervalières, par exemple.
Mais j'y étais, moi, quand j'avais 10 ans, c'était la même chose, Mohamed.
Oui,
Bellevue, les Dervalières, tous ces quartiers-là que je connais par cœur, mais déjà, c'était des endroits où la mixité sociale n'était pas répandue.
Mais justement, c'est ce que je dis, les politiques n'ont jamais voulu enlever cette mixité de là. Parce qu'en fait, quand vous concentrez des gens qui ont les mêmes problèmes, avec des difficultés sociales, enfin moi j'ai habité les Dervalières, il y avait globalement les familles en difficulté, les alcooliques et les primo-arrivants étrangers qui étaient systématiquement mis dans les HLM de ces quartiers-là, systématiquement. Et donc du coup, vous avez dans le parcours résidentiel de ces gens-là, tous... Si vous rentrez dans le logement social, vous commencez par les quartiers difficiles, forcément.
Oui, mais comment vous pouvez faire autrement? C'est ça que je saisis mal. Comment vous pouvez faire que des familles huppées aillent, dans l'exemple de Nantes, à Bellevue ou à Dervalières?
C'est en commençant déjà par donner les quartiers, les logements sociaux qui existent dans les centres-villes à des Mohamed, à des Adèle, à d'autres personnes que les Pierres. En fait, il y a des Pierres dans les logements sociaux, mais du centre-ville. Les logements sociaux des quartiers difficiles sont réservés aux familles en difficulté et aux personnes étrangères qui arrivent de l'étranger. Et comme ça, vous avez une concentration. Les logements HLM, ils peuvent créer de la mixité. Ils peuvent faire des vases communicants entre les quartiers sensibles. Si les enfants qui sont en difficulté, au lieu de les concentrer dans des ZEP, dans les quartiers difficiles où tous les enfants sont en difficulté, si on les emmenait dans des écoles ailleurs, si on prenait le bus... ne serait-ce qu'une fois par semaine pour les emmener dans d'autres écoles que dans les écoles difficiles, qu'ils aillent voir ailleurs, qu'ils aillent avoir d'autres enseignants, d'autres camarades, vous décloisonnez ces quartiers-là.
Vous avez parfaitement raison. En théorie, vous avez raison. C'est-à-dire que si tous les matins, on emmène les gosses qui vivent dans les quartiers difficiles et qu'on les met dans des écoles plus favorisées, vous allez obtenir une mixité sociale au moins à l'école et vous allez évidemment l'imposer et ça peut marcher. Simplement, c'est pas facile à mettre en place d'une façon pratique. Oui, convenez-en.
Oui, mais c'est pour ça que je dis...
Ça demande beaucoup de moyens.
C'est une décision politique avant tout. Enfin, il y a les transports en commun. Enfin, quand je dis
prendre c'est enfants, pas simple. C'est pas vous rendez compte, même pour les enfants, c'est pas simple. Parce que l'enfant, il aime bien aller à l'école qui est en face de chez lui.
Oui. Oui, mais du coup, ça peut être une question de relogement. Tout à l'heure, je disais qu'il y a des quartiers logements sociaux dans des quartiers qui sont pas difficiles. Toutes les villes connaissent ça. Mais sauf que quand vous allez demander un logement social chez Nantes Habitat ou chez d'autres bailleurs sociaux, ils regardent votre... Moi, personnellement, j'ai commencé mon parcours résidentiel dans le logement HLM par le quartier des Dervalières, quand j'étais étudiant en doctorat. Au bout de 2 mois, j'ai pas supporté, je venais d'être marié, je suis parti au bailleur social, je lui ai dit je ne peux
Pourquoi
pas
vous ne supportiez pas?
Parce qu'il y avait des nuisances tout le temps, il y avait des personnes, des familles en difficulté, il y avait des familles qui s'engueulaient, il y avait des alcooliques, il y avait des vendeurs de drogue. Il y avait
C'était
des...
en quelle année?
Je connaissais pas. C'était dans les années, début des années 2000. Du coup, je suis parti au bailleur social, j'ai dit c'est pas possible, j'ai un niveau qui me permet pas de rester dans ces quartiers-là, j'ai écrit des lettres et tout, j'ai pu en sortir pour aller dans des quartiers sociaux, mais d'autres quartiers sociaux dans le centre-ville à l'époque. Bon, maintenant, je suis plus dans le parcours des logements sociaux, mais si d'autres familles ne savent pas faire ça, ne peuvent pas faire cette démarche, ils supportent, ils peuvent pas faire autrement. Donc, ce que je veux dire là, c'est que il faut commencer déjà par le fait que les politiques nationales et les collectivités locales décident d'aborder ce problème. Dans le quartier des Dervalières, dans les années 2000, vous aviez un commissariat qui existait. Il y a à peu près 15 ans, ce commissariat, il a été enlevé du quartier de Bellevue, pardon. Il a été enlevé du quartier de Bellevue. Il a baissé les rideaux pendant un an et puis après, il a disparu. Le taux de concentration des policiers dans le centre-ville de Nantes, il est beaucoup plus élevé que dans ces quartiers sensibles. Donc, à un moment donné, il faut
merci, Mohamed, de cet éclairage, parce que c'est vrai que c'est très intéressant de vous écouter. Vous êtes enseignant où, à Nantes, aujourd'hui?
À l'université.
À l'université, dans quel domaine?
Dans le domaine littéraire, à Nantes.
Eh bien, écoutez, merci de votre appel. Vraiment, c'était très intéressant de vous écouter. Effectivement, il y a sûrement des solutions à mettre en place, elles ne sont pas faciles, mais
Dernière chose, j'ai peur juste d'un glissement de ce sujet-là vers un sujet identitaire. La question n'est pas le manque d'intégration culturelle de ces gens-là. En fait, ils n'ont rien demandé, on les a tous parqués.
C'est la dame qui dit Pierre, hein. C'est elle qui met la question sur le plan identitaire. C'est elle qui le met. C'est ça qui est tout à fait surprenant dans cet échange. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe. Vous voyez, cette femme qui est évidemment intégrée à la société française, qui elle-même quand même a un voile et s'exprime donc devant le président de la République. Donc c'est un signe religieux fort, hein, de porter le voile. Et en même temps, certains y ont vu d'ailleurs un paradoxe, elle demande à ce qu'il y ait des garçons qui s'appellent... Pierre, qui soit au contact de son fils. Et certains, disons-le, hein, il n'y a pas de langue de bois à ce micro, certains y ont vu un paradoxe dans son attitude. Mais le ministre Darmanin, ce matin, au contraire, lui, voyait cette femme assimilée, intégrée française, mais qui réclame, effectivement, même si elle porte un voile, et il l'a souligné, Gérald Darmanin, a besoin de cette mixité sociale, culturelle, et c'est ce qu'elle réclamait. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Si je vous fais écouter ça, ça vous rappelle quelle Pierre?
Pierre Richard, la chèvre.
Qu'est-ce qui vous arrive encore?
Je ne sais pas, je m'enfonce.
Pourquoi?
Je ne sais pas, je vous dis.
Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle?
Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce.
Et pourquoi je m'enfonce pas, moi?
Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble.
Monsieur Tessier.
Formidable extrait. Vous pouvez réagir aux déclarations du ministre de la Santé, Olivier Véran, dans le Télégramme. Nous amorçons une décroissance de l'épidémie depuis 5 jours, mais la diminution reste fragile. Nous sommes toujours à un niveau très élevé de l'épidémie. Alors, la réouverture des écoles lundi est-elle raisonnable? L'épidémiologiste Antoine Flahault était l'invité de RTL Midi avec Agnès Bonfillon. Il est favorable à une poursuite de la fermeture des établissements scolaires.
Oui, 3 semaines supplémentaires seraient sans doute le régime qui permettrait d'arriver à cette décrue épidémique, qui permettrait ensuite aux autorités de santé de reprendre totalement la main sur toutes les chaînes de transmission.
Faut-il aussi alléger les restrictions sanitaires à partir de la mi-mai, région par région? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est dit ouvert à une approche territoire par territoire. Eh bien, on peut déconfiner étape par étape, réagir sur nos réseaux sociaux, mais le rythme des vaccinations est trop lent. Erwan préfère attendre une baisse significative de l'épidémie. Nous sommes irresponsables, sinon on ne peut pas s'appuyer sur un calendrier touristique électoral. Partagez-vous ces avis. 3210, 3210 dès maintenant sur votre téléphone.
Merci Laurent, nous sommes avec Nicolas. Ah non, on est avec Pierre, tiens. On va prendre Pierre. Pierre, oui. Aujourd'hui, a tous les droits. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Comment ça va?
Ben moi ça va un peu mieux, là j'ai été bien fatigué, mais ça va mieux.
Bon, en tout cas, vous avez un prénom qui, depuis hier, est au centre des débats.
Eh oui, des fois, mais c'est rare qu'on parle des pierres. Hein.
Vous trouvez que c'est rare qu'on parle des pierres?
Ah oui, c'est un prénom qui est un petit peu oublié, on va dire.
Oh mais non, j'ai pas ce sentiment, j'ai au contraire le sentiment qu'il traverse qu'il est intemporel. J'avais des pierres quand j'étais en classe, je connais des pierres qui ont 20 ans. C'est assez rare des prénoms qui sont donnés à toutes les époques, ils sont pas fréquents.
Il dure dans le temps, mais il n'est pas trop usuel. Pas trop usuel. Mmh. Et suivant les régions aussi, j'ai eu l'habitude de plusieurs régions, mais moi je suis dans le Beaujolais là. Mmh. Il y en a pas mal dans le Beaujolais.
ça doit être la région qui veut ça. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Pierre?
Ben, je voulais vous dire que c'est un prénom qui était quand même utilisé par une période parce qu'on parlait encore des apôtres, Saint-Pierre. Mmh. On parlait aussi des pierres, des gars qui étaient costauds, qui étaient constructeurs, tout ça.
Mais vous savez que l'histoire des prénoms, c'est rigolo. Je crois qu'au début du siècle, 20% des filles s'appelaient Marie. Se prénommer Marie, 20%.
Ah oui, ça bon. C'était énorme.
Donc effectivement, il y a une diversité aujourd'hui de prénoms qui n'existait pas lorsque vous êtes né. Je peux donner votre âge, vous avez 69 ans. C'est vrai que il y avait une uniformisation des prénoms dans votre génération. Il y a beaucoup de Michel, de Jean-Claude, de Jean-Philippe, de Jean-Pierre, etc. Mais aujourd'hui, il y a une diversité des prénoms parce qu'il y a les prénoms effectivement d'origine étrangère, mais il y a aussi des prénoms qui retrouvent l'ADN des régions. Je pense au prénom breton, au prénom corse, au prénom basque, qui n'existait pas aussi fréquemment et qui n'existait pas du tout d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas le droit d'appeler n'importe comment, de prénommer n'importe comment son garçon ou sa fille il y a encore une trentaine d'années.
Ah oui, c'était beaucoup plus surveillé. Maintenant, l'état civil autorise des prénoms complètement bizarres. Hein. Mmh.
Bon, vous aimez votre prénom, Pierre ?
Ah, moi, j'aime bien mon prénom et je le supporte, plus que je le portais, d'ailleurs. Puisque je le porte.
Et vous avez eu des garçons, des filles, peut-être ?
Alors, j'ai eu un garçon, mais on a choisi Olivier, avec
d'accord.
Ma femme.
Parce qu'il y a également, ça n'a rien à voir avec notre débat aujourd'hui, mais il y a parfois dans les familles des prénoms qui se transmettent de génération en génération, où tous les premiers garçons de la famille s'appellent Charles ou Pierre.
Ah oui, ça c'était une coutume, on va dire. Hein. Mmh. Et puis alors, il y a eu tous les gens après, moi, dans ma génération, il y avait Jean-François, Jean-Paul. Après, on mettait autre chose derrière, mais il y avait beaucoup de gens, Jean-Baptiste, tout ça. Hein.
La loi du 8 janvier 1993 assouplit la réglementation concernant les prénoms. Elle offre aux parents la possibilité de choisir des noms de baptême originaux. En effet, ceux-ci sont autorisés à donner n'importe quel prénom à leur enfant dans la mesure où ils ne portent préjudice ni aux droits des tiers ni à l'enfant. Et avant cette loi, il fallait uniquement appeler ses enfants d'un prénom qui existait sur le calendrier. Dans le calendrier.
Et oui. Il fallait le trouver dans le calendrier des PTT, quoi.
Bon, bah merci, Pierre.
Mais je vous en prie, ça m'a été agréable de parler avec vous.
Mais nous aussi, vous paraissez effectivement assez détendu, donc c'est agréable.
Oui, parce que j'ai fait un peu de télévision aussi, et puis un petit peu de radio quand même. Mmh. Lorsque j'ai vécu à Paris, j'ai vécu 3 ans à Paris, où j'allais beaucoup aux émissions, on va pas citer Drucker et compagnie.
Quoi. Bah si, pourquoi pas.
Oui, parce qu'il s'est remis de sa maladie. Hein.
Bien sûr, il est en pleine forme.
Voilà.
Merci Pierre.
Moi, malheureusement, je vous dis à bientôt.
Ben oui, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte.
Voilà.
Merci Pierre.
Continuez cette émission qui est agréable.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir Pierre.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Noble et dure contrainte, aimable tyrannie. Tous mes plaisirs sont morts ou ma gloire ternie. L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse.
Francis Huster dans le site Pierre Corneille. On fait un spécial Pierre. Alors, j'ai retrouvé la loi du 11 germinal en 11 qui préconisait que les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms. Et ces dispositions ne sont plus aujourd'hui d'actualité puisque je vous ai lu tout à l'heure la loi de 1993. On est sur la mixité sociale, cette affaire de prénoms également qui a soulevé la dame qui s'adressait hier, qui s'appelle Naïma d'ailleurs, je crois, qui s'adressait au président de la République. Et nous allons être à présent avec Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. La mixité sociale, alors vous êtes directeur d'une école élémentaire, c'est intéressant. Est-ce que vous avez le sentiment que dans votre école, tous les petits garçons et petites filles sont issus du même milieu social et culturel ?
Eh bien non, justement. C'est pour ça que j'appelais. Ils ne sont pas issus du même milieu. Nous avons... alors, il n'y a pas de Pierre dans mon école, mais on a des enfants, effectivement, de cultures et de confessions différentes. Et je pense que c'est une sacrée richesse. Parce qu'en effet, la mixité permet de faire prendre conscience à tout le monde qu'il y a des gens qui vivent avec des cultures et des modes de vie différents et que ça tire tout le monde vers le haut que de partager, de s'enrichir des différences des autres.
Mais pourquoi cette école rassemble-t-elle des gens d'origine différente ?
Comme le disait Mohamed tout à l'heure, et j'ai trouvé son intervention très très pertinente et intéressante, et la ville dans laquelle j'habite et j'exerce, fait en sorte que dans les quartiers il y ait une espèce de mixité. Alors on n'a pas une forte un fort pourcentage de population d'origine immigrée, mais néanmoins il y a quand même des gens qui viennent qui sont issus de ces populations, et les quartiers se mélangent, et puis les parents ont le choix aussi de sortir, comme il le disait tout à l'heure, de sortir du quartier pour aller demander une dérogation et inscrire leurs enfants dans d'autres écoles dans la ville. Il y a 21 écoles dans la ville où je travaille, et les parents ont le choix de mettre, dans la mesure du possible bien entendu, mais ont le choix de mettre leurs enfants dans l'école où ils souhaitent les mettre.
Donc mixité sociale dans votre école et mixité culturelle, nous sommes d'accord.
Absolument. Et donc ça enrichit vraiment les relations entre les élèves, mais aussi entre les familles d'ailleurs.
Alors, on retrouvait ça dans le temps, dans le sport et parfois au service militaire où il y avait un mélange. À l'école, on pouvait le retrouver aussi, mais là où on ne le retrouve pas, et c'est en cela que c'est intéressant votre témoignage, c'est généralement dans le lieu d'habitation. Mais là, dans les lieux d'habitation, me dites-vous, il y a ce brassage.
Il y a aussi un brassage, en effet. Et en fait, j'ai appelé tout à l'heure parce que le premier témoignage, le premier auditeur qui est intervenu, dans son témoignage, ça m'a un petit peu énervé parce que ça sous-entendait que les quartiers où il y a des dégradations, des incivilités, ne sont fréquentés que par des personnes d'origine maghrébine, c'est ce qu'il a dit.
Or, c'est ce que disait Charles de Montpellier, je ne sais pas s'il le disait de cette manière-là.
Ben moi, je l'ai pris un petit peu comme ça, et justement, c'est ce qui m'a fait réagir. Je pense qu'il ne faut pas faire un mauvais procès d'intention à cette maman. J'ai trouvé très fort, moi, au contraire, qu'elle interpelle le président, et comme vous le disiez, qu'elle soit voilée, c'était d'autant plus fort qu'elle-même dit « Mais attendez, en fait, vous nous avez tous mis dans les mêmes endroits. Et mon fils de 8 ans pense que le prénom Pierre est un prénom qui n'existe pas. Ça peut aller plus loin. Moi, j'ai déjà des élèves qui m'ont dit dans un livre, en faisant une séance d'histoire, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on voit ici ou c'est juste dans le livre ? Est-ce que ça s'est vraiment passé ? Et je trouve que c'était très fort. Il ne faut pas lui faire un procès d'intention.
Non, il n'y a pas de procès d'intention. Mais ce que je veux vous dire, parce que je l'ai entendu, et c'est vraiment un sujet touchy et délicat, c'est pour ça que je prends des précautions oratoires, c'est que cette femme qui était formidable, qui était sincère, qui était authentique, et on voit bien la mère que c'est, qui est vraiment proche de ses enfants, j'ai entendu certains souligner le paradoxe parce qu'ils voient dans le voile et le port du voile dans une société comme la nôtre une manière de se séparer du reste de la population. Certains disent le voile est un objet du séparatisme.
Mais justement, est-ce que c'est vraiment un paradoxe ou au contraire, ça illustre bien les amalgames qui sont faits régulièrement et de dire que tous les gens qui portent le voile ne souhaitent pas forcément se séparer, ils veulent juste un traitement à peu près équitable, en fait, tout simplement, et d'être considérée comme tout le monde, bien qu'elle porte un voile.
Oui, j'entends cela, mais il y en a aussi, il faut aller toujours au bout de ces discussions. Vous avez des gens qui disent « Moi, je ne veux pas vivre dans un quartier où toutes les femmes sont voilées ».
D'accord, mais alors là, je
vous voyez, c'est pour ça que c'est des discussions très compliquées. J'entends aussi certains qui disent, écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas d'être dans un quartier où toutes les boucheries sont halal, où toutes les femmes sont voilées, où effectivement les mœurs, je parle même pas de religion d'ailleurs, les mœurs ne sont pas, comment dire, les mêmes, les traditions ne sont pas les mêmes que dans une France traditionnelle, disons-le comme ça.
D'accord, mais on peut le prendre aussi dans l'autre sens alors. On peut prendre la réflexion dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a des gens, il y a sans doute des gens aussi qui ont ces mœurs que vous venez d'évoquer et qui souhaiteraient peut-être habiter en centre-ville des grandes villes. Mais en fait, comme le disait Mohamed tout à l'heure, on ne leur donne pas cette possibilité.
Mais oui, mais c'est là que ces discussions très, très longues et très difficiles. C'est-à-dire que certains disent le voile ou ces mœurs-là ne correspondent pas à la tradition française. Et à partir du moment où cette population d'immigration est arrivée sur le sol français, on peut lui reprocher de ne pas avoir fait fi de ces traditions et de ne pas les avoir oubliées.
Oui, alors oui, enfin ça c'est l'éternel débat, mais des gens qui, des Français, comme vous dites, très traditionnels, qui vont dans un autre pays comme le Maroc par exemple, où je suis déjà allé, ben les gens se regroupent aussi entre eux. Et ils gardent aussi leur tradition, en fait.
Mais on peut dire ça, c'est ce que disait d'ailleurs Jean Viard tout à l'heure, et il disait, les Bretons de Paris, ben, ils sont ensemble, les Marseillais de Paris, ils sont ensemble, et dans le temps, dans le sport, par exemple, c'était intéressant, dans les équipes de football, les Yougoslaves, ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble, la communautarisation, elle a toujours existé, et puis ils avaient un rythme de vie qui était différent de ceux qui étaient français.
Oui, en effet, mais je pense aussi qu'il faut justement... ne pas donner du grain à moudre à certaines idées là, un petit peu extrémistes qui feraient que voilà, on va récupérer ce sujet, alors qu'au contraire, moi c'est ça que je voulais dire, c'est que quand on a des mamans comme cette dame qui interpelle pour dire voilà, pourquoi on n'est pas un peu plus dans la mixité, elle est convaincue, pardon, comme moi, mais comme plein de gens, de cette richesse là. Et moi, mon témoignage, c'était de dire que voilà, en tant que directeur d'école, je peux vous assurer que c'est une sacrée richesse et que le regard que portent les uns sur les autres, parce qu'il ne faut pas se mentir, en effet, des mamans qui portent le foulard à la sortie de mon école, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, et bien il y a des gens qui les regardaient un peu avec méfiance ou défiance, peut-être, je ne sais pas, et qui, au fil des semaines, bah, s'aperçoivent que, ah bah oui, j'ai parlé avec elle, elle est vraiment gentille. Ben oui, mais pourquoi elle ne serait pas gentille, vous voyez,
parce que chacun a des préjugés.
Les préjugés, mais justement, en mélangeant, en mixant la population, je pense qu'on peut y arriver.
En tout cas, c'est intéressant de vous écouter, là encore, parce qu'il y a une volonté chez vous, une tolérance, d'abord chez vous, et puis une volonté du vivre ensemble, pour le coup.
Ah oui. Ben, ça serait un petit peu dommage, en tant qu'enseignant et directeur d'école, mais de penser autrement.
Merci beaucoup Nicolas. Merci, il est 13h48. Nous marquons une pause.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est subtil, Gréca, elle dit. Pierre et le loup.
Trop fier.
Vous le portez bien.
Pierre et le loup.
Nous vous attendons au standard pour réagir aussi à d'autres actualités. Cette troisième nuit de tension à Tourcoing dans le Nord. Des échauffourées entre les jeunes et la police, des tirs de mortiers d'artifice. Si vous habitez la commune, n'hésitez pas à nous appeler pour réagir. C'est un coup de gueule qui pourra aussi vous inspirer au 3210, celui de l'acteur Gérard Lanvin chez nos confrères de TF1. Il critique l'époque actuelle.
L'époque, elle est déconcertante, elle est affligeante. La technologie a pourri le monde pour moi. Je veux dire, l'époque est devenue une époque minable où les sans-couilles parlent derrière leurs écrans, où c'est de la dénonciation, c'est de la délation, c'est une époque minable. C'est très difficile aujourd'hui d'imaginer un monde heureux dans les années qui vont venir. Là. C'est très difficile. Aujourd'hui, on s'aperçoit que rien ne fonctionne. Rien. Les hôpitaux, en passant par les flics, en passant par les pompiers, il manque de tout.
Partagez-vous le coup de gueule de Gérard Lanvin. 3210, 3210 dès maintenant.
Il est formidable ce coup de gueule de Gérard Lanvin. C'était
dimanche.
Dimanche TF1.
Dimanche dans, TF1 dans l'émission.
L'émission 7 à 8. Mmh. Ah ouais, c'est passionnant ça. Richard. Bon, ça rassemble d'ailleurs à la phrase de Michel Sardou, je hais cette époque. C'est exactement la même phrase. Ouais. Ah ben c'est vraiment la même. C'est amusant d'ailleurs d'écouter les deux parce que c'est deux artistes. Richard, bonjour.
Je hais.
Oui, bonjour.
Ah, je hais cette époque. Okay, on peut le réécouter. Réécoutons je hais cette époque.
Je hais cette époque. Je hais.
Donc ça, c'est une version courte. Richard, bonjour.
Bonjour, alors je vais faire la même. Je hais cette époque.
Aussi ?
Réellement, je hais cette époque.
Mais oui, mais là, franchement, vous n'êtes pas. J'allais dire, vous n'êtes pas sérieux. Il y a quand même. Je vous assure, si je vous projette en 1975, immédiatement. Vous ne pouvez plus appeler vos enfants, votre chérie, vos amis à n'importe quel moment. Il faut que vous rentriez chez vous, que vous trouviez une cabine téléphonique. Vous avez des voitures, à la moindre problème, vous êtes quasiment mort parce qu'il n'y a pas de sécurité. Si vous êtes malade, je vous conseille d'avoir la maladie qui peut se soigner en 1975 parce qu'elle ne se soignait pas toutes et notamment on connaît les progrès en matière de cancer, etc. Et je pourrais multiplier par exemple les ordinateurs qui nous permettent de travailler à une vitesse folle. Je veux dire, vous avez Google aujourd'hui. Bah oui, c'est important quand même parce qu'on s'est tellement habitué à plein de choses positives de cette époque qu'on ne voit plus que les choses négatives.
Oui, parce que l'être humain tombe dans les travers, puisqu'on parle technologie, on va déborder un petit peu, mais des travers des réseaux sociaux, des choses comme ça, qui peuvent pourrir la vie de certaines personnes. On est dans le tout politiquement correct, on est dans le... Et c'est en ça, en fait. Je pense que cette époque pourrait être bien, mais comme d'habitude, l'être humain tombe dans ses travers, et de par les travers, du coup, je dirais... allez, je vais employer un mot très fort exprès, hein, mais ça lie tout. Voilà.
Mais Richard, en 1975, les femmes, elles sont maltraitées. Dans les entreprises, elles n'ont pas accès aux postes de responsabilité. Elles sont moins bien payées que leur homologue homme. Vaut mieux être une femme en 2022 qu'une femme en 1975, au moins dans l'univers professionnel.
Ah mais complètement. Et hors professionnel, hein, on est d'accord, il y a quand même eu des évolutions. Mais dans plein de choses, malheureusement... Et moi, je vois ça avec mon regard de senior, puisque maintenant je le suis. Mais quand je vois ce que devient, je dirais, la vie de tous les jours et potentiellement ce qu'on laisse à nos enfants. Moi, j'ai une fille qui a 25 ans et peut-être à mes petits-enfants, parce que je pense qu'un jour, elle aura des enfants. Mais honnêtement, je préfère avoir été, moi, enfant et ado dans les années 70 et 80 que maintenant.
Bon, vous nous avez appelé parce que vous venez d'un quartier défavorisé, cette mixité sociale qui est notre fil rouge depuis 13 heures. Vous vouliez l'évoquer. Vous trouvez qu'il y a moins de mixité sociale aujourd'hui qu'il y a 30 ans ?
Absolument, absolument. Moi, j'habitais une petite ville du Jura. Moi, mes copains, ils étaient, et même lorsque je suis arrivé au début sur Besançon, moi, mes copains étaient marocains, algériens, portugais. Enfin, on n'avait pas... je dirais ces barrières comme on a depuis je pense les années 90, mais c'est venu progressivement, donc le fixer réellement, je pourrais pas le dire, mais réellement nous on était les gosses du quartier et ça s'arrêtait là. On allait alors je sais plus si c'était marocain ou algérien faisait le pain, c'était un bonheur d'aller le manger là. Quand j'allais chez mes copains portugais, je goûtais du poisson que je pouvais pas manger à la maison. On s'est jamais posé des questions, on s'est jamais enfermé là-dedans. Et je dirais ces discours politiques pour éviter d'arriver à être montré du doigt pour se servir. Alors voilà, je vais venir là-dessus. Moi, je suis apolitique. Je précise bien avant parce que donc je vote plus. Je préfère me faire mes opinions moi-même. Mais les politiques ayant peur d'être montrés du doigt ou être référencés FN ont déserté. Voilà. Et du coup, ont autorisé, ont toléré plein de choses, plein de débordements qui, en croyant bien faire, au final, ont mené à cette non-mixité actuelle.
Bah écoutez, et aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas où vous habitez, dans Besançon, bien évidemment, mais vous avez le sentiment, vous habitez en maison, en appartement ?
Alors, moi, maintenant, je suis juste à côté de Besançon. On est en petite maison. On a la chance. Mais voilà, il n'y a pas si longtemps, j'ai travaillé en usine avec des gens.
Bon, est-ce que vous avez le sentiment d'être dans une cohérence, que les gens, vos voisins, sont du même milieu social, culturel que vous?
Parce que j'ai fait en sorte de changer. Et l'exemple que je donnais tout à l'heure, moi j'ai connu un monsieur, lorsque je travaillais encore dans l'usine, comme ouvrier, avant d'avoir repris mes études, j'ai un monsieur qui travaillait dans un des quartiers les plus difficiles de Besançon, qui d'ailleurs est rasé, et on termine de le raser actuellement. Ses quatre enfants étaient à la faculté parce qu'il les a tenus, on va dire, à la culotte, à l'ancienne, pour justement que ses enfants puissent changer d'endroit, puissent découvrir d'autres choses, puissent aller vivre mieux. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ben merci Richard, merci une nouvelle fois de ce témoignage. Et merci beaucoup. On va marquer une pause, la pause de 14h, avec le Flash, qui sera présenté par Monsieur Serrano dans quelques secondes. Et puis nous continuerons sur ce sujet qui nous intéresse depuis 13h, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi peut-être vous avez envie de parler du Covid, de la réouverture des restaurants. Ce qu'on espère, n'hésitez pas, tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Avant d'écouter le flash de Vincent Serrano, Laurence est avec nous pour le déconfinement de l'école. Bonjour Laurence.
Bonjour Pascal.
C'est lundi le grand jour.
Eh oui, c'est le grand jour.
Pour les primaires.
C'est ça, exactement. Pour une rentrée très similaire à celle qu'on a faite déjà à plusieurs reprises.
Le rappel des titres avec Vincent Serrano.
Rebonjour Pascal, bonjour à tous. Jean Castex a présenté ce matin son plan prison lors d'une visite dans le Haut-Rhin. Le Premier ministre évoque deux phases. Création de 7000 places nettes de prison d'ici 2023, 8000 entre 2025 et 2027. Coût total du plan, 4,5 milliards d'euros. Un déconfinement territorialisé, c'est ce que laisse entendre Olivier Véran au regard de la situation épidémique. Une décroissance faible depuis 5 jours. Dans les colonnes du Télégramme, le ministre de la Santé cite l'exemple du Finistère, du Gers ou des Landes, où le taux d'incidence est moins élevé et la pression hospitalière moins forte. Il confirme également, vous le disiez, la réouverture des écoles en présentiel à partir du 26 avril, collège et lycée à partir du 3 mai. La justice délivre un mandat d'arrêt international à l'encontre de Rémi Daillé-Widman, un Français de 46 ans expatrié en Malaisie, soupçonné d'avoir organisé puis financé le rapt à distance de la petite Mia. Gérald Darmanin recevra samedi les policiers victimes de Viry-Châtillon, annonce faite ce matin sur RTL par le ministre de l'Intérieur, alors que ce midi, plusieurs centaines de policiers se sont rassemblés devant le palais de justice de Paris pour crier leur colère et leur incompréhension suite au verdict rendu en appel dans la nuit de samedi à dimanche par la cour d'assises des mineurs de Paris. La mort du président tchadien annoncée par l'armée à la télévision d'État au pouvoir depuis 30 ans, Idriss Déby est décédé suite à des blessures reçues au front alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles au nord du pays. Idriss Déby qui avait été réélu pour un sixième mandat consécutif hier avec près de 80% des suffrages. Aux États-Unis, le verdict du procès de la mort de George Floyd doit être rendu. Le jury s'est retiré hier pour délibérer. Derek Chauvin, l'ex-policier mis en cause dans la mort de l'Afro-américain de 46 ans, risque jusqu'à 40 ans de prison. La météo de cet après-midi avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies dans la majeure partie du pays. Les températures, elles vont de 14 à Cherbourg à 20 degrés pour Grenoble, 16 à Lille, 17 à Ajaccio, 18 à Paris et Strasbourg. Les courses, ça se passait à Chantilly. Je vous donne l'arrivée provisoire. Le 13, le 2, le 16. L'As et le 5 à la photo provisoire pour la quatrième place. 14h03 sur RTL. C'est la suite des auditeurs en la parole. Avec vous, Pascal Praud.
Merci Vincent Serrano.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurence, donc, qui est directrice d'école primaire.
Oui.
Dans quel département vous êtes?
Je suis dans le département de l'Eure.
Donc, comment ça se passe pour lundi, à quelle heure?
Ben écoutez, à l'heure habituelle, dans exactement, pour l'instant, en tous les cas, le même protocole qui était appliqué avant la fermeture de l'école. On n'a pas eu de protocole sanitaire renforcé. On n'a pas la sensation qu'il se soit passé d'ailleurs grand-chose, finalement, ni en termes de baisse de cas, etc. Donc, nous, on était dans une région qui était déjà classée rouge et qui était confinée depuis un certain temps. Donc, je n'entends pas parler d'amélioration en tous les cas. Donc,
bon, est-ce que les parents vous appellent?
Non, non, non.
Ah bon, vous n'avez pas de contact avec les parents? Il n'y a pas d'inquiétude particulière? Tout le monde a...
Il n'y a pas d'inquiétude particulière. Alors, on a une mairie qui a toujours mis en place le protocole vraiment de manière extrêmement rigoureuse, avec du personnel en permanence dans l'école pour nettoyer les sanitaires, les classes quand on part en récréation, les sanitaires quand on y est passé, etc. Et ce qui fait qu'on a quand même été à peu près à l'abri. On a eu un enfant qui a été positif en octobre et c'est tout. Donc peut-être que ça y contribue. En tous les cas, les parents sont pas particulièrement inquiets. Et nous non plus d'ailleurs, à vrai dire. Donc voilà.
Bon, bah, si tout le monde... Et les professeurs ne seront pas vaccinés sans doute ?
Des personnes ne seront vaccinées parce qu'on n'a pas l'âge. Donc voilà.
Il n'y a pas de professeur qui a plus de 55 ans dans votre...
Voilà, on est 16, 14 enseignants et c'est moi la plus âgée. Et donc j'ai 51 ans pour l'instant, donc j'attends.
Donc de CP jusqu'à CM2, nous sommes d'accord. 5 classes en primaire.
Non,
5...
non, non, 11 classes.
Ah oui, parce que vous faites avant le CP.
Non, non, du CP non. Au CM2,
ah oui. On a 11 classes. Oui, il y a plusieurs, effectivement. Mais il y a 5 niveaux.
C'est ça, voilà.
Il y a 5 niveaux et 14 enseignants. C'est toujours intéressant, d'ailleurs, sur les 14 enseignants, combien d'hommes, combien de femmes?
Un homme.
C'est fou.
Non, je dis des bêtises, excusez-moi. J'ai un homme plus un qui vient une journée par semaine puisqu'il complète un temps partiel.
Et ça aussi, c'est des changements. Alors, c'est des changements... déjà, c'était très féminisé, les professeurs... on ne disait pas les professeurs des écoles, d'ailleurs, dans les années 70. Ben voilà, on disait, moi, j'aimais bien le mot instituteur. Ouais. Je ne sais pas, si, je sais pas voilà, pourquoi on l'a changé.
Ça ne change pas grand-chose, hein, si ce n'est au statut, mais voilà.
Mais vous avez raison, mais je ne perçois pas parfois pourquoi ce beau mot d'instituteur a disparu au profit de professeur des écoles. Mais bon, il y a sûrement des raisons. Et donc, un instituteur, un professeur des écoles, et donc 13 professeurs au féminin.
Exactement.
Eh bien, écoutez, je vous remercie grandement.
Mais par contre, l'encadrement, c'est très, très masculin. Voilà. Vous voyez, c'est représentatif de la société aussi.
Et j'ai vu, en revanche, parce qu'il y a une étude qui était en train de tomber sur l'orthographe. Et l'orthographe est en chute libre, alors que c'est à l'école primaire qu'a priori, on l'apprend.
Ah oui, on fait que ça. On fait des dictées tous les jours. Mais on a aussi beaucoup d'enfants qui ne lisent plus du tout chez eux.
Bah on lisait, honnêtement, on lit pas beaucoup quand on a 6-7 ans à la maison. Vous voyez, c'est pas là où on lit le plus.
On avait quand même une activité qui nous amenait à lire. Maintenant, les enfants ont des activités qui les amènent à juste regarder et être passifs devant un écran. Et ça, c'est déjà beaucoup plus ennuyeux parce qu'il y a très peu de curiosité finalement.
Ben merci de votre témoignage pour cette école qui rouvre. Déconfinement des écoles, ça va être notre thème encore dans quelques secondes.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Nous allons être avec Céline. Tiens, bonjour Céline.
Bonjour Monsieur Pro, c'est Colline, c'est pas grave.
C'est Colline, pardonnez-moi, on m'a transmis une fiche et je lisais Céline, pardonnez-moi.
Il n'y a pas de souci, tout d'abord merci de l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer sur votre antenne. Donc,
déconfinement, comment ça va se passer pour vous? Vous avez...
Pardon ?
Comment ça va se passer pour vous, le déconfinement, si j'ose dire ?
Ah bah écoutez, moi je suis en télétravail depuis quasiment un an, donc je ne fais pas partie des gens qui ont le droit de se plaindre. Je touche mon salaire à la fin du mois, donc j'ai un travail qui me plaît énormément, donc j'ai envie de dire que je fais partie des gens qui sont extrêmement privilégiés.
Mais vous ne retournez plus à l'entreprise depuis un an ?
Non, tout à fait.
Jamais.
Tout à fait.
Alors, même pas si une journée par semaine.
Si, on y est retourné au mois de juin, au mois de juillet, au mois de septembre et un petit peu au mois d'octobre. Et puis il y a eu le confinement.
Alors qu'est-ce que vous faites pour vous passer de l'entreprise comme ça? Vous êtes peut-être dans la comptabilité?
Non, je suis dans le domaine banque-assurance. Mais disons qu'avec Skype, avec Teams...
Ouais, c'est ça, il y a des domaines. Par exemple, les experts comptables me disent que ils n'ont plus besoin de venir au bureau et que chacun peut faire ses dossiers de son côté, que ça ne change pas finalement le travail.
Moi, je suis dans ce cas-là. Par contre, le lien social me manque énormément.
Bah, j'imagine quand même, ce n'est pas très rigolo de vivre chez soi toute la journée.
Non. Non, mais bon, on fait néanmoins. On nous a donné des consignes, donc au niveau du travail, étant donné que ça ne perturbe absolument pas, on fait avec. Hein, avec une hâte de reprendre. Ne faisant pas partie pourtant de, ne rentrant pas dans les cases, c'est-à-dire ayant 58 ans, n'étant pas à risque, j'ai néanmoins eu la première injection du vaccin AstraZeneca et j'attends avec impatience d'avoir la deuxième injection pour pouvoir 15 jours, 3 semaines après, retourner au travail.
Bon, ce qui m'intéresse dans ce télétravail, c'est est-ce que vous trouvez que vous êtes plus efficace que lorsque vous êtes au bureau?
Oh que oui. Mais c'est très dangereux parce que on empiète sur la vie personnelle.
Ah oui, vous travaillez trop.
Bah oui.
Oui, parce que je suis pas sûr que ce soit que tout le monde fasse comme vous.
Écoutez, autour de moi, c'est relativement partagé comme idée. Hein. C'est relativement partagé. Par contre, c'est plus fragmenté. C'est-à-dire que si typiquement on a besoin de prendre un rendez-vous médical, on va s'absenter pendant une heure sans problème. Mais on est plus efficace. Moi, je suis plus efficace. Je travaille beaucoup plus.
Mais quand vous étiez dans l'entreprise, vous travailliez en paysager ou vous aviez un bureau fermé ?
En paysager.
Donc, vous étiez soumis à la distraction, parfois aux conversations des uns et des autres.
Exactement.
Mais là, le travail que vous faites, c'est un travail d'analyse de dossier ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, je fais des réunions avec des collaborateurs, avec des managers. Et merci Skype, merci Teams.
Et vous trouvez que c'est mieux les réunions en Skype qu'en présentiel ?
Ah non. Au niveau des réunions, je vais pas vous dire. Il n'y a rien de tel que le présentiel.
C'est intéressant. Et l'activité de l'entreprise, elle est aujourd'hui finalement percutée par ce télétravail ou au contraire, elle n'est absolument pas percutée ?
Elle est quand même relativement, surtout au début. On a quand même été, lors du premier confinement, on a été très très perturbés les uns et les autres parce que c'était un mode de travail qu'il fallait qu'on apprenne.
Mais maintenant, au bout d'un an ?
J'ai envie de dire que tout est rentré dans l'ordre, mais néanmoins, la majorité des collaborateurs ont hâte de reprendre, de revenir sur site. Hein.
C'est votre cas aussi ?
Ah oui, oh là que oui. Mais moi, je n'avais jamais fait de télétravail. Hein. Le premier confinement a été une première pour moi par rapport au télétravail.
Ce télétravail perdurera ? Une fois que l'épidémie sera arrêtée, on l'espère tous.
Alors au niveau de l'entreprise, je n'en sais rien, me concernant, non. Je reprendrai
5 sur 5,
oui, tout à fait, et j'ai hâte.
Vous habitez dans l'Isère ?
Non, je suis dans Paris.
Ah, vous habitez dans Paris ?
Oui, je suis dans Paris. Hein.
D'accord. Vous mettez combien de temps pour aller à votre job ?
Alors, quand j'y allais par les transports en commun, je mettais à peu près une demi-heure. Et quand ils ont commencé à parler, qu'il y a eu l'épidémie, j'y vais à pied, je mets 50 minutes, une heure.
Alors, ça reste quand même
raisonnable,
mais tout est-ce qu'il y a des gens qui mettent plus d'une heure ?
Oui, bien sûr.
Ceux-là, évidemment, cette période de télétravail, j'imagine qu'ils doivent encore mieux l'apprécier que vous, parce que quand vous passez
exactement,
une heure et demie...
Ils n'ont pas la fatigue des transports en commun,
L'entreprise est dans Paris ?
Oui. Tout à fait.
Et il y a peut-être des gens qui sont à l'extérieur de Paris qui viennent travailler alors que
vous
êtes dans Paris.
Exactement, et il y en a qui ont 2 voire 3 heures même de transport.
3 heures par jour
Pour eux, c'est très appréciable. Le télétravail est très appréciable.
Et est-ce que vous avez le sentiment que la direction de votre entreprise vous laissera le choix ?
Oh non, je pense qu'il y aura des limites. On sera bridé, hein, peut-être à 2 jours, voire 3 jours.
C'est pas mal déjà, 2 jours. Hein.
C'est déjà pas mal.
Franchement, ça change la vie.
On était déjà à une journée. Hein,
Parce que c'est la grande révolution. Si effectivement l'employeur trouve que le travail est aussi efficace, voire plus efficace, sans que l'employé se déplace, et si l'employé n'a pas envie, pour les raisons qu'on vient de dire, et notamment 3 heures de transport par jour, de venir chaque matin, vous pouvez trouver une solution de 2-3 jours en télétravail et puis 2 jours pour garder le contact social.
Tout à fait, mais il faudra quand même que ce soit bien organisé au niveau des entreprises, parce que les gens qui travaillent en équipe, c'est pas open bar, c'est pas chacun fait ce qu'il veut. Il faut que ça soit quand même bien organisé à mon sens.
Je suis d'accord avec vous. Merci pour toutes ces précisions, Colline.
Ben, je vous en prie, monsieur Pro.
Ben non, mais c'était gentil parce que de se prêter au jeu des questions-réponses, parce que vraiment, c'est un... je suis sûr que vous êtes représentatif de beaucoup de gens, et puis il y a beaucoup de gens qui ont dû vous écouter. Ben si, il y a beaucoup de gens qui ont dû vous écouter vraiment avec beaucoup d'intérêt. Merci, Colline.
Ben, je vous en prie, monsieur Pro.
Et à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Gaël est avec nous. Bonjour Gaël.
Bonjour Monsieur Pro.
Vous habitez en Isère. C'est vous qui habitez en Isère et vous avez trois enfants qui vont peut-être rentrer à l'école lundi.
Oui. Alors j'ai mon grand qui a 6 ans qui rentre à l'école et j'ai mes jumeaux qui ont 3 ans qui retournent à la crèche.
Et alors comment ça va se passer ?
Eh bien écoutez, moi j'ai hâte qu'ils retournent parce que ça va me faire un peu de vacances. Très honnêtement. c'est pas que je les aime pas. Hein. J'adore mes enfants.
Ah oui, mais, j'espère pour eux. J'espère pour eux que vous les aimez, les pauvres.
Oui, je les aime plus que tout au monde. Mais ma femme est prof, donc elle travaille en Corse. Il y a eu le bac blanc juste avant les vacances. Donc elle a énormément de copies à corriger. Donc, c'est moi qui gère un peu tout le truc. Et puis, ça leur manque un peu. Ma fille me dit tout le temps, papa, je peux aller à l'école, je peux aller à l'école. Quand est-ce que je vais à l'école ? Elle n'a que 3 ans. Hein.
Non, mais elle a des jumeaux de 3 ans et puis l'autre qui a 6 ans. C'est trois enfants en bas âge. C'est pas facile quand même. L'organisation n'est pas facile.
C'est un petit peu plus facile que si on était encore à l'INOP. J'avoue que je pense qu'il y aurait depuis longtemps, je serais devenu fou. Là, à la rigueur, je les envoie dehors, on fait des activités dehors, tout va bien. C'est plus facile, mais il faut éviter qu'ils aillent dans le bureau où Madame Bo travaille, parce que les copies, ça demande beaucoup de temps. En plus, j'ai entendu l'auditrice qui était juste avant qui parlait du télétravail. Elle trouvait que c'était fantastique. Elle n'a pas d'enfant peut-être, mais en tout cas, ma femme qui bosse en télétravail à partir de la semaine prochaine avec des cours en distanciel, parfois des cours en conférence, parce qu'elle bosse en lycée, avec trois enfants, c'est un cauchemar. C'est même pas gérable, c'est pas possible. Donc ça va être très bien qu'ils soient à l'école. Ils vont reprendre avec des protocoles qui sont stricts. Mon fils, il va aller, sa classe va aller dans la cour de récréation. Ils vont revenir, c'est notre classe qu'il va faire. La cantine, ça va être pareil.
Ils vont faire la classe dehors ?
Pour aller à la récréation. Ils font la classe, puis à la récréation, c'est une classe qui va dehors, puis après, c'en est une autre, et les élèves ne croisent pas. Donc, au niveau des protocoles de sécurité, moi, je ne me fais pas de soucis. C'est pas comme en lycée où les élèves ne sont pas très forcément hyper respectueux ou dans le lycée où elle est. Faire respecter le protocole sanitaire que nous dit M. Jean Castex, notre cher Premier ministre, ou alors Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui dit qu'en cantine, il faut qu'il y ait des distances, etc. Pas toujours faisable. Donc, mon fils serait en collège, je serais un peu inquiet. Mais là, comme il est à l'école, je ne me fais pas de soucis.
Bon, tout a été donc, ça va bien se passer. Et vous-même, vous avez été, durant cette période-là, en difficulté dans votre travail ?
Eh bien, écoutez, moi, j'ai eu les jumeaux il y a 3 ans et j'ai renoncé à travailler. J'ai dit, écoutez, je suis en intérim, je gagne 600 euros par mois, laissez tomber, je deviens père au foyer. Donc, je pensais renoncer à cette situation en septembre, et puis comme le Covid-19 a gentiment pointé le bout de son nez, trouver un travail s'est avéré extrêmement difficile, même en intérim, hein, quasiment tout est fermé. Donc j'ai beaucoup
donc
de mal.
Donc c'est vous qui gérez les enfants au quotidien, et c'est plutôt votre femme qui part travailler, si j'ose dire. Parce que vous faites est aussi un travail, et on sait bien que s'occuper de trois enfants, c'est un travail à plein temps. J'imagine que c'est une situation qui ne durera pas toujours.
Non, je n'ai pas l'intention que ça dure toujours. J'ai l'intention de retourner au travail, ça me manque un petit peu. J'ai eu la chance de retourner au travail récemment et c'était très très agréable. Ça change.
Vous êtes dans quel secteur d'activité, Gaël ?
Moi, je suis. Alors, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis diplômé en comptabilité et au final, je bosse en cuisine.
Bah, ça peut être plus rigolo la cuisine que la comptabilité. Je peux comprendre.
Ah, les deux sont très rigolos. C'est marrant de jouer avec les chiffres, mais c'est vrai que le contact humain et puis voir ce qu'on fait réellement, ça change beaucoup de choses. Mais en tout cas, pour la question qui était posée de l'école, moi, je ne me fais aucun souci. Même à la crèche, les protocoles sont hyper stricts. Au moindre problème, c'est le bunker qui est sorti. Le gamin est mis de côté. Je ne critique pas la crèche, hein. Qu'on soit bien d'accord. Il est mis de côté. Les parents doivent venir le chercher, l'emmener au médecin. Et après, on voit ce qu'on fait.
Bah, merci beaucoup Gaël. Un dernier mot aujourd'hui avec Max qui va nous parler de la Super League. Et vous savez que les clubs souhaiteraient, les grands clubs souhaiteraient ne jouer qu'entre eux. À mon avis, ça ne sera pas d'ailleurs, parce que tout le monde est contre, que ce soit les politiques, les supporters, j'allais dire l'espace médiatique. Il n'y a que les grands clubs, au fond, qui défendent cette idée-là. Max, vous vouliez dire un mot là-dessus ?
Oui, ben d'abord, merci de vos émissions. Vous avez le courage de vos opinions, ce qui n'est pas toujours le cas des journalistes, donc c'est bien sympathique.
Merci.
Si on les partage.
Je ne sais pas comment je dois le prendre pour tout vous dire, mais merci quand même.
Ben, c'est la réalité. À ce qui concerne le football, mon père était à la finale en 38, j'étais à la finale en 98 et à la demi-finale à Dortmund en 2006. Donc je suis passionné de football depuis toujours. C'est un sport merveilleux, un sport où il faut deux chemises et une vieille boule de poil ou autre pour jouer. Alors là, on va nous prendre en otage. Parce que si on veut pouvoir voir leur truc, il va falloir payer bien cher. Déjà aujourd'hui en France, pour pouvoir regarder le foot, il faut être abonné à Bein Sport, à Canal+, et à RMC. Je trouve quand même qu'on nous prend pour des vaches à lait. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Bah, merci de ce témoignage. Et je suis plutôt d'accord avec vous, en fait. Et je suis contre ce projet qui tue l'esprit du sport et qui n'a pas vraiment beaucoup de légitimité. Merci Max, on est un peu en retard. Il est 14h25, le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous a fait réagir au 32-10. Y a-t-il encore des gens qui portent le prénom Pierre dans les quartiers ? Lors de son déplacement hier à Montpellier, Emmanuel Macron a été interpellé par une habitante du quartier de la Mosson.
Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. Je lui ai dit non, mon fils Pierre existe vraiment. Il y a des gens qui s'appellent Pierre.
Et du coup, ce matin, en conférence de rédaction, vous êtes dit, Pascal ?
Ça serait pas mal de rendre hommage aux pierres.
Ah ouais, ouais, ouais.
Alors, pour justifier le sujet, le prénom est-il suffisamment représenté ?
Pierre Etex, Pierre Granier de Fer, Pierre Lescure, Pierre Hermé, Pierre Loti, Pierre Ninet, Pierre Vanek, Pierre Legrand, Pierre Perret, Pierre Soulage, Pierre Corneille, Pierre Richard, Pierre de Ronsard, Pierre Bachelet, Pierre Carmel.
Oh, la liste est très longue. On ne peut pas oublier aussi la religion.
Saint-Pierre, priez pour nous.
Et quand on parle de Pierre, on pense aussi au Père Noël est une ordure.
Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer.
C'est bien noté, vous nous avez convaincus, lançons une édition spéciale.
On va faire une spéciale Pierre. Donc que tous les auditeurs qui s'appellent Pierre nous appellent parce qu'ils auront un cadeau.
Oh, mon cadeau en vue, est-ce que tout le monde est prêt ?
Pierre ? Présent. Pierre ? Présent. Pierre ?
Présente.
Pierre ?
Et une question à 10 000 euros. Qui nous a appelé ce midi au standard ?
Nous sommes avec Nicolas. Ah non, on est avec Pierre. Tiens, on va prendre Pierre. Pierre, oui. Aujourd'hui, a tous les droits. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Et oui, Pierre a tous les droits. Que pense-t-il d'ailleurs de son prénom ?
Il est dur dans le temps, mais il n'est pas trop usuel. Et suivant les régions aussi, j'ai eu l'habitude de plusieurs régions, mais moi je suis dans le Beaujolais là. Il y en a pas mal dans le Beaujolais.
ça doit être la région qui veut ça.
Pierre, un dernier mot sur l'émission ?
Pierre.
Vous continuez cette émission qui est agréable.
Je vous remercie.
Merci patron.
Pascal, pour terminer, vous avez quelque chose à rajouter ?
Pierre et le loup !
Oh, vous l'avez bien tenu. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une chanson célèbre d'un Pierre, évidemment.
Oh, ah, c'était les corons. La terre, c'était le charbon.
Cette chanson reprise au stade Bollaert par les supporters donne le frisson à chaque fois qu'on l'entend. Pierre Bachelet qui nous a quittés il y a quelques années. Magnifique chanson. Flavie Flamand dans une seconde.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.